Ou bien est-ce qu'on change profondément le modèle? Je dis qu'il faut passer du modèle de la supervision réactive au modèle de la restriction préemptive. La supervision réactive, c'est on laisse les petits poulets s'ébattre en plein air. Puis alors, de temps en temps, il y en a un qui se taille, alors on va le rattraper. Le problème, en général, c'est qu'ils se barrent tous ensemble dans un sens et qu'ils vont se jeter dans le précipice et qu'on les revoit jamais. Bon. La restriction préemptive, c'est qu'on les enferme à double tour. Et éventuellement, on leur met un peu de Lexomil dans le grain pour les tenir bien calmes et pour les désexciter. Alors, très concrètement, ça veut dire des choses comme séparer la banque commerciale de la sphère des marchés et la séparer hermétiquement, fermer un certain nombre de marchés dérivés, limiter l'accès aux marchés de produits dérivés restants, interdire ce qu'on appelle le trading pour compte propre, c'est-à-dire ces activités dans lesquelles les banques ne se contentent pas de passer les ordres de leurs clients, mais jouent avec leurs fonds propres et en général dans des conditions incroyablement plus scabreuses et plus risquées. Ça veut dire soumettre à validation, ce qui voudra dire le plus clair du temps, à interdiction, la plupart des innovations financières qui sortent des cerveaux géniaux des ingénieurs de la finance, etc. etc. Donc là, je renvoie à tout un tas de mesures techniques qu'on ne peut pas aborder maintenant, mais il y a des choses qui sont tout de même concevables et dont on ne prend absolument pas le chemin, hein.
Frédéric Lordon, là on a compris, là on a la solution, hein. Les auditeurs prennent des notes et donc le monde va changer dans les...
Oh bah dans le quart d'heure, ça me paraît évident.
Dans la semaine. Allez. Mais quand même, ce krach financier, il a eu pour effet une certaine récession économique. On a évoqué la montée du chômage. Il y a un lien entre ce krach financier et l'économie. Et puis il y a un lien extrêmement violent entre cette théologie du marché, cette théologie du profit, et puis la gestion des entreprises.
Oui.
On le voit actuellement avec la crise chez France Télécom, privatisée en grande partie, et puis avec la Poste qui a l'air de dériver elle aussi vers la privatisation. Est-ce qu'on peut évoquer ça ?
Bah oui, on peut, je dirais même qu'on doit. C'est une manière de revenir sur le thème qu'on a abordé tout à l'heure, c'est-à-dire le thème de la crise financière symptôme, la crise financière épiphénomène d'une crise plus profonde, qui est une crise structurelle, crise de la configuration présente du capitalisme en tant qu'elle donne lieu, qu'elle soutient ce que j'appelle, pour faire simple, alors il y a des appellations analytiquement plus rigoureuses hein, et plus précises, mais pour faire simple, un capitalisme de basse pression salariale. Et ce capitalisme de basse pression salariale, il est structuré autour de deux grandes contraintes structurelles. La première contrainte, c'est la contrainte actionnariale. La contrainte de dégager, faites aux entreprises de dégager toujours plus de rentabilité à servir l'actionnaire. Et la deuxième contrainte, c'est la contrainte concurrentielle. Bon. On voit bien que la synergie de ces deux contraintes opère un effet de tenaille absolument mortel qui voue le salaire à devenir une variable d'ajustement envoyé dans une dynamique de compression indéfinie. Bon. Alors ça, c'est, je dirais, l'appréciation quantitative des choses. On pourrait prendre cette affaire de contrainte actionnariale, puisque, je veux dire, enfin, c'est exactement de ça dont il va être question lorsqu'on va parler de France Télécom et qu'on va évoquer le destin de la Poste. Plus qualitativement parlant, il faut se demander pourquoi la symbiose de la contrainte actionnariale et de la contrainte concurrentielle est à ce point toxique. Car il faut le dire, je veux dire, c'est le plongement dans un univers ultra-concurrentiel qui exalte, en quelque sorte, qui démultiplie les effets de nuisance de la contrainte actionnariale. Sous l'injonction actionnariale de dégager sans fin de la rentabilité financière, la concurrence a pour effet de placer tous les agents en position d'avoir à défendre des intérêts vitaux. Et ça, de haut en bas de la pyramide hiérarchique. Parce que le paradoxe, d'une certaine manière, c'est que ça commence avec le patron lui-même, n'est-ce pas ? Le patron qui n'est plus du tout le seul maître à bord après Dieu hein, dans l'entreprise. Maintenant, il a sur le dos les actionnaires et les marchés financiers.
Et la concurrence aussi.
Et la concurrence.
C'est deux arguments. Le gars va dire, mais attendez, il y a une telle concurrence qu'on est obligé de se conduire comme ça. Et puis, il y a les actionnaires qui sont derrière nous et on est obligé de se conduire comme ça.
Et alors, ce qui est tragique, c'est que cet argument ne peut pas être balayé du revers de la main, car il est objectivement bien fondé. Qu'il soit instrumenté de la plus cynique et de la plus brutale des manières, n'empêche pas que ces contraintes-là sont bel et bien là. Et alors, pour le patron, c'est assez terrible, parce que s'il ne donne pas satisfaction, il sautera. Et il sautera selon l'enchaînement fatal suivant, sous-performance, baisse du cours de l'action, menace d'OPA, débarquement de toute l'équipe dirigeante. Et même avant l'OPA, si par hasard il y avait un petit putsch de conseil d'administration, on se débarrasserait du patron mal performant dans de meilleurs délais.